à ne pas lui donner même un franc pour son projet d'affaires. Et il n'hésite pas non plus à le traiter d'incapable, de paresseux ou de voyou irrécupérable. Désœuvré, Moubarak ne juge aucune tâche digne de lui, ne veut surtout pas travailler pour quelqu'un d'autre. Il veut entreprendre, mais a perdu tout espoir d'une aide quelconque de l'un de ses oncles en sombrant dans l'alcoolisme. Pour lui, je suis donc devenue sa chose. Sur moi, il se défoule de son trop-plein de colère et de rancœur envers son père. Je ne me plains plus. Et s'il m'arrive de pleurer, je le fais en cachette, la nuit, dans l'intimité de ma chambre. Je n'attends plus rien des autres, ni secours, ni espoir. Résignée, je me conforme à ce que tous attendaient de moi. Je n'ai personne à qui me confier. Entre les femmes de la concession règne le non-dit, l'hypocrisie et la méfiance. Je ne déroge pas à la règle. Je deviens égoïste. Je ne vais pas bien, les autres non plus, mais je ne me préoccupe que de moi. Mes insomnies se multiplient et le manque de sommeil me donne des migraines. J'ai beau prendre des médicaments prescrits par les médecins, des filtres recommandés par des guérisseurs, rien n'y fait. La lassitude me ronge et j'éprouve une angoisse que rien ne peut atténuer. J'ai de plus en plus de fourmillements et de crampes dans les membres, ce qui me laisse sans force. Mon entourage, qui voit là les signes d'un refroidissement, me conseille de me couvrir et de m'aliter. Je m'enfonce peu à peu dans la déprime et fais parfois des crises de spasmophilie pendant lesquelles, la gorge serrée, je n'arrête pas de suffoquer. L'estomac noué, la mort me semble de plus la seule échappatoire. Un soir où Moubarak revient comme d'habitude ivre et hargneux, il exige à plus de minuit que je lui fasse une bouillie. Je m'affaire, inquiète à l'idée qu'à une heure aussi tardive je ne puisse trouver les bons ingrédients. Et dans mon affolement, je n'arrive pas à rallumer le feu. Le temps passe, je me désespère de réussir à satisfaire mon époux. Là d'attendre, celui-ci me rejoint dans la cuisine, et quand il découvre que le foyer est encore éteint, il devient enragé. Un rictus défigure son visage. Nos regards se croisent un bref instant, puis sans rien dire, il repart dans la cour. Fébrilement, je cherche une bûche quand un violent coup dans le dos me précipite dans la cendre. Étourdi, je réussis, par instinct de survie, à lui faire face et me protège le visage au moment où trois autres coups d'un parasol, associés à de nombreux coups de pied, s'abattent violemment sur moi. « Tu me fais rapidement cette bouillie ou je reviens t'achever » menaça-t-il en retournant vers sa chambre. Le visage tuméfié et le corps plein d'ecchymose, je tremble de tous mes membres. Mon pagne est souillé d'urine. Il faut que je rallume le feu, que je fasse cette bouillie. Mes mains tremblent tellement que je renverse par terre une partie de la farine, déjà insuffisante. Moubarak ne tarde pas à revenir. Sa silhouette athlétique surgit de la pénombre, son ombre terrifiante se détache sur le seuil de la porte. Dans le silence à peine troublé par mon souffle, je sens mon cœur battre la chamade et je me mets à le supplier, en claquant des dents. « S'il te plaît, je me dépêche, s'il te plaît. » Et je recule jusqu'au mur noirci de suie. Je renverse au passage l'assiette contenant le restant de farine et je protège mon visage en répétant d'une voix hachée « Je me dépêche, je fais vite. Donne-moi un peu de temps, j'arrive. » « C'est bon, Hindou, laisse tomber cette bouillie. Je n'en veux plus. » « Je vais rallumer le feu. Je vais... » La terreur me serre la gorge, m'étouffe et m'empêche de respirer. « Je fais vite, je me dépêche. » Quand il se rapproche de moi, je tremble tellement que pour la seconde fois de la soirée, je fais sur moi. Le liquide tiède mouille le pagne déjà humide, dégouline le long de mes jambes et laisse une trace sur le sol poussiéreux. Un vide s'installe dans mon esprit. Tout mon corps se contracte de peur des coups. Je suis terrorisée. Contre toute attente, ma frayeur le calme et il pousse un soupir. Je lui répète, en reculant encore comme pour disparaître dans le mur, « Je vais faire la bouillie, je vais la faire rapidement. »« Viens, » fait-il en me prenant par la main et en m'entraînant dans la chambre. Il semble attendri. « Hindou, va te doucher, je t'attends, » ordonne-t-il en refermant la porte. « Je vais faire la bouillie, » dis-je au